Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée par Samuel Bernard, Marguerite Caton, Maïder Gérard et Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et à la technique ce matin, Emmanuel Borsdinkan. Cette semaine, dans Culture Monde, une série consacrée à la téléphonie mobile alors que se tient à Barcelone le sommet mondial du téléphone portable. Un monde sans fil, c'est le titre de notre semaine consacrée à ce téléphone intelligent qui a révolutionné nos vies, nos économies et même notre environnement. Hier, nous parlions de la bataille géopolitique autour de la 5G. Demain, mercredi, nous poserons la question de la protection des données sur portable. Et enfin, jeudi, il sera question de l'impact environnemental de la fabrication de nos chers smartphones. Mais ce matin, direction l'Afrique, de Dakar à Nairobi, les promesses de la révolution technologique.
Qu'est-ce qui a changé pour toi en tant que chauffeur de moto-taxi ?
Je suis content de ma collaboration avec SafeMoto. L'appli est aussi reliée à une plateforme qui permet de mettre de l'argent de côté. La plupart de nos clients utilisent le paiement mobile pour nous régler. L'argent arrive directement sur notre compte. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer à mettre de l'argent de côté.
Avant, on savait qu'il allait pleuvoir une fois qu'on voyait les nuages noirs s'accumuler. Avec Farmerline, on peut recevoir une alerte quand le ciel est encore dégagé et savoir que le temps va se gâter et qu'il vaut mieux ne pas aller au champ. Nos cultures se portent mieux qu'avant.
Mon vœu pour l'Afrique, c'est que dans les années qui viennent, on ne soit plus simplement des consommateurs de technologie, mais des producteurs.
Un chauffeur de moto-taxi au Rwanda qui encaisse ses courses grâce à une application. Un producteur de cacao au Ghana qui anticipe le mauvais temps grâce aux alertes sur son portable. Et enfin le patron d'une start-up lors de la conférence Africa Tech Summit à Kigali. Ils seront plus de 660 millions de personnes équipées d'un smartphone l'an prochain sur le continent africain. Presque deux fois plus qu'en 2016. L'Afrique est bien au cœur d'une mutation, d'une révolution technologique sans précédent. Longtemps privée de lignes fixes et d'ordinateurs personnels, les populations du continent semblaient en marge des nouvelles voies de communication mondiale. Mais aujourd'hui, l'Afrique est entrée de plein pied dans ce mouvement de connexion et apparaît même en pointe des nouveaux usages. Plus qu'un rattrapage, c'est bien une trajectoire singulière qu'invente aujourd'hui l'Afrique numérique, car c'est tout un nouvel écosystème économique, social et politique qui émerge sous nos yeux. Alors, les portables et leurs innombrables applications peuvent-ils vraiment apporter des solutions concrètes au quotidien, améliorer les secteurs de l'agriculture, de la santé ou encore de l'éducation? L'Afrique est-elle vraiment à l'aune d'un saut technologique et pourrait-elle servir de modèle au reste du monde? Enfin, quelles sont les limites à ce miracle numérique sur le continent? Eh bien, invité ce matin pour répondre à toutes ces questions, Jean-Michel Huette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des télécoms africaines, vous êtes associé au cabinet de conseil Bearing Point. Vous avez vous-même accompagné le déploiement numérique de plusieurs entreprises et aussi d'États en Afrique. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru chez Michel Lafon en 2017, Le digital en Afrique, les 5 sauts du numérique. Alors on va commencer par essayer de poser un petit peu un constat, en tout cas un paysage de cette question du numérique en Afrique. Et puis on va peut-être commencer par dire que l'Afrique, évidemment, ce n'est pas un seul pays, c'est 54 pays. C'est une réalité très diverse, très complexe, avec beaucoup de disparités. C'est un préalable important, évidemment, quand on choisit de s'intéresser à ce continent. Et une fois qu'on a dit ça, il y a quand même une condition, une évolution du numérique qui se retrouve d'un pays à l'autre et qui est significative. Jean-Michel Huette.
Ah bah oui, les 20 dernières années ont été assez exceptionnelles. Et encore une fois, c'est parce que ces 20 années ont été exceptionnelles qu'il n'y a pas encore tout à faire. On est vraiment au début de cette aventure. Il y a 20 ans, en fait, l'Afrique sur cette question-là était assez homogène presque. Je caricature un peu. Il faut se rendre compte qu'il y a 20 ans, seulement 2% des Africains avaient accès aux télécoms. Alors, c'était essentiellement des lignes fixes, évidemment, comme celles qu'on a eues en France, mais seulement 2% de la population. Aujourd'hui, et vous l'avez un peu dit dans les chiffres, on estime qu'en réalité 60% à 65%, c'est parfois un peu difficile d'avoir les bons chiffres, mais les deux tiers, on va dire pour faire simple, des Africains ont accès à la téléphonie. Donc au moins téléphonie mobile, les fameux 2G, 3G, 4G, hein. La 5G c'est pas pour tout de suite en Afrique. Mais il faut se rendre compte que ce saut de 2% à 66%, bah, ça s'est fait entre 15 et 20 ans. La France pour faire ça, ça a été 60-70 ans. En France, la pénétration de la téléphonie fixe au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était 2-3%. On a dépassé les 60% que dans les années 80.
Et comment on explique ce boom, justement, cette progression plus rapide qu'ailleurs? Est-ce qu'il y a eu une baisse des prix qui a permis cette démocratisation du téléphone portable? Comment on l'explique concrètement?
Déjà, la vraie différence, c'est que c'est le téléphone portable qui porte 99% de cette croissance. Hein. C'est pas la téléphonie fixe. C'est-à-dire qu'en 15 ans, on a assisté effectivement à une véritable explosion de la téléphonie mobile. Je dirais pour deux grandes raisons. Déjà, en soi, ça coûte beaucoup moins cher de déployer une téléphonie mobile que du fixe. Hein. Faut pas creuser des routes, faut pas mettre des câbles, etc. Et surtout, il y avait un modèle économique très différent en Afrique qu'en Europe, même si on le connaît un peu en Europe. Il faut avoir conscience qu'en Afrique, 85% des Africains, et là encore une fois, vous l'avez dit justement, il y a des écarts entre les pays, mais en moyenne, 85% des Africains n'ont pas de compte bancaire. Or, historiquement, pour avoir la téléphonie fixe, il fallait un compte bancaire parce que c'est un abonnement. La téléphonie mobile permet d'avoir deux moyens de paiement. L'abonnement qu'on a en France, hein, c'est 60% des Français ont un abonnement, et puis ce qu'on appelle le prépayé. Et le prépayé, c'est pas d'abonnement, pas de compte bancaire, c'est j'achète une carte à gratter, un code secret pour pouvoir consommer des minutes de téléphone, ou aujourd'hui des kilo-octets de données, mais je l'achète avant, et je peux le payer en liquide. Donc pas besoin de compte bancaire. Donc dans un continent où 85% des gens n'ont pas de compte bancaire, mécaniquement, ça empêchait d'avoir accès aux télécoms à la quasi-totalité de la population. Avec un système où on peut payer en avance sa téléphonie, bah ça change la vie. Et c'est ça qui a été un des grands vecteurs de déploiement très rapide de la téléphonie mobile. Et encore une fois, avec un coût bien moindre. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que les Africains sont spécialisés à avoir, pour certains, un ou deux téléphones, voire trois.
Oui, en fonction des réseaux,
exactement.
On entend souvent ça, que
ça
permet de s'adapter au réseau qui va passer le mieux sur le territoire sur lequel on va se trouver à un moment T, et puis d'utiliser une autre puce dans un autre téléphone. Donc c'est essentiellement sur une question de réseau qui ne couvre encore pas totalement le territoire,
Une question de réseau, mais aussi une question de prix. C'est-à-dire que les Africains, notamment en Afrique subsaharienne, sont les spécialistes pour optimiser le bon prix, parce qu'ils savent que dans telles conditions, à telle heure, la téléphonie est peut-être moins chère sur tel réseau que sur tel autre. Ou ils savent que appeler une personne quand les deux interlocuteurs sont sur le même réseau téléphonique, ça coûte moins cher que d'appeler quelqu'un qui est sur un autre réseau.
Alors cet équipement donc qui a progressé de manière spectaculaire, est-ce qu'il ne cache pas quand même encore de grandes différences, des fractures, même fractures numériques, peut-être entre les campagnes et les villes, ou bien entre certains pays, ou encore entre classes sociales?
Vous avez à peu près tout dit. Il y a des vrais écarts. Et encore une fois, la réalité africaine, c'est pas quelque chose de monolithique. Vous avez un écart, et ça c'est la plupart des pays, ville, zone rurale. Ville, parce que quelque part, et là c'est vrai, quel que soit le continent, pour un opérateur télécom, sur du mobile, mettre une borne qu'on peut voir une antenne et couvrir une population urbaine, donc très concentrée, ça coûte moins cher. Aller mettre des antennes dans les campagnes, où il y a moins d'habitants, c'est un peu plus cher. Un pays comme l'Algérie, 95% de la population réside sur 3% du territoire. Donc couvrir ces 3% qui sont urbains, ça coûte pas le même prix que couvrir les 95 autres. C'est une première différence, une différence, je dirais, géographique. Il y en a une deuxième, et là c'est par pays, c'est distinguer les pays qui sont avec une zone côtière des pays enclavés. Pourquoi ? Parce qu'une partie de la connexion, surtout à Internet, vient par les câbles sous-marins. Encore une fois, il y a 20 ans, les câbles sous-marins et l'Afrique, ça n'existait quasiment pas, il y en avait très peu. Aujourd'hui, l'Afrique n'est plus déconnectée du monde, il y a des câbles sous-marins importants. Mais il y a une inégalité entre les pays qui ont ces accès maritimes, donc accès aux câbles, de ceux qui sont des pays enclavés, qui doivent passer par d'autres pays pour qu'on tire encore plus de câbles, donc ça coûte plus cher, et ils dépendent de certains pays. Un exemple assez caricatural, c'est en Afrique de l'Est, vous avez l'Éthiopie. Éthiopie, 100 millions d'habitants, quasiment. Aucun accès à la mer. Et leur principal accès à la mer, c'est Djibouti. Djibouti, 1 million d'habitants. Une des 5 villes les mieux connectées au monde, je dis bien au monde, en termes de câbles sous-marins. Le Wi-Fi à Djibouti que j'ai dans l'hôtel est meilleur que ce que j'ai à Paris, parce qu'il y a moins d'utilisateurs déjà, et surtout parce que c'est hyper connecté. Et Djibouti, c'est un port, en partie, c'est un accès maritime, beaucoup de câbles. L'Éthiopie passe par Djibouti pour avoir ses accès Internet. Donc vous voyez une inégalité géographique, ville, zone rurale, mais également zone enclavée versus pays qui ont un accès maritime.
Alors, sur les zones rurales, je voudrais quand même... on dit souvent, on lit souvent, c'est une phrase qui est peut-être caricaturale, d'ailleurs je voulais vous la soumettre, que voilà, dans certains villages, eh bien, peut-être qu'il n'y a pas accès à l'eau courante, mais on a un téléphone portable. C'est souvent qu'on présente la manière dont cette révolution arrive en Afrique. Voilà, pas accès à l'eau courante, mais un téléphone portable. Est-ce que ça vous paraît être caricatural ou révélateur d'un paradoxe réel dans lequel se retrouvent beaucoup de pays?
C'est hélas une réalité. L'accès à l'eau est compliqué en Afrique, et encore une fois, encore plus dans les zones rurales. Il faut se rendre compte que la majorité des gens dans le monde qui n'ont pas accès à des toilettes, parce que c'est aussi un des usages de l'eau, sont en Afrique. Donc oui, c'est une réalité. Il y a un autre exemple que je donne souvent, parce que je pense qu'il marque bien l'apport de la téléphonie mobile par rapport aux insuffisances d'infrastructures d'un continent comme l'Afrique, c'est l'accès routier. Il y a 400 000 villes et villages dans toute l'Afrique, dans les 54 pays. Vous en avez moins de 30% qui ont un accès en dur, bitumé. Donc le reste, c'est de la piste, voire rien du tout. Sur ces 400 000 villages, 70% ont une couverture au moins GSM, 2G. Donc vous voyez, c'est plus facile d'envoyer un SMS, enfin vous pouvez envoyer plus facilement un SMS dans n'importe quel village africain que d'y avoir accès avec une route à peu près stable et dure. Et là, je pense que c'est révélateur de cette révolution. Et là, c'est, le mot, je pense, n'est pas trop fort en l'espace de 15 ans. C'est-à-dire que des villages qui étaient eux-mêmes enclavés, qui étaient un peu coupés du monde, eh bien, alors c'est pas ça qui va tout de suite leur apporter de la nourriture hein, ou des médicaments ou autre, mais malgré tout, il y a un contact avec l'extérieur qui est beaucoup plus facilité aujourd'hui grâce à la téléphonie. Donc effectivement, ça peut peut-être choquer, mais l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau dans les villages, dans les zones rurales, est plus compliqué en Afrique qu'aujourd'hui que l'accès de la téléphonie mobile.
Alors cette révolution précisément, Jean-Michel Huette, certains l'appellent, on parle d'une théorie, la théorie du saut de grenouille, le leapfrogging. Alors déjà, pourquoi cette image de la grenouille? Et puis est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une définition de cette théorie du saut de grenouille, qui est censé qualifier le saut technologique et la croissance sur laquelle se base l'Afrique ces dernières années?
Cette expression, alors qui n'est pas applicable dans tous les cas de figure, illustre le fait que, quelque part, les pays africains, au lieu de passer par toutes les étapes où nous sommes passés, en Europe ou en France, avec pas faire des erreurs, il faut être clair, eh bien directement vont à la bonne solution.
Donc sautent des étapes.
Sautent des étapes. Typiquement, pour un Africain, la connexion Internet par un PC, pour les jeunes Africains, la moitié des Africains ont moins de 18 ans, ça n'existe pas. Enfin, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. L'accès à Internet, c'est naturellement via un téléphone. La ligne fixe, je vous donne l'exemple, ça existe très peu. Or, gens très riches ou administration, entreprise, pour les Africains, le téléphone, c'est le mobile. C'est pas du tout nos fameux téléphones fixes qu'on a connus. Autre exemple, dans le domaine, par exemple, de la santé, ça m'a amusé. En septembre, on a beaucoup parlé de la télémédecine qui est arrivée en France. Ça fait 10 ans qu'on a fait en Afrique.
La télémédecine. Vous pouvez nous donner un exemple, peut-être?
En fait, un des deux gros problèmes en Afrique dans la médecine, c'est qu'il y a très peu de médecins. Mais dans des proportions absolument dramatiques. C'est le nombre de médecins par habitant, c'est le niveau de la France divisé par 50. Donc autant vous dire que c'est catastrophique. Peu de matériel, des scanners, tout ce qui permet de faire des examens. Bah, quelque part, la téléphonie mobile, on peut prendre une photo, envoyer au médecin, alors qu'on est en zone rurale, de la grande ville, qui est peut-être un des rares spécialistes de tel ou tel problème de peau, de cassure, etc. Il peut faire un diagnostic à distance.
Et on reçoit le diagnostic.
Reçoit le traitement,
mais ça ne veut pas dire qu'on va recevoir les médicaments, ou que le diagnostic va être extrêmement poussé, ou ça ne va pas remplacer non plus une sage-femme dans une maternité.
Alors, encore une fois, le digital, le numérique, selon le mot qu'on prend, ça ne remplace pas tout. C'est pas la solution miracle qui va tout changer. Ça, faut être tout à fait clair avec ça. Par contre, ça peut éviter des erreurs. Il y avait une étude de l'ONU qui estimait que dans des pays comme le Mali, qui depuis 10 ans utilise la télémédecine, ça avait évité plus de 500 mains coupées. Je dis bien main coupée, suite à une erreur qui aurait pu être une erreur médicale. Oh là là, tout à coup là, si c'est un peu noir, c'est de la gangrène, faut couper. Une photo, 2-3 analyses envoyées par téléphone mobile. Le médecin dans la capitale peut dire, oh non, là, faut pas couper, au contraire, voilà ce qu'il faut faire et c'est fini. Donc l'erreur de diagnostic, ça peut être évité grâce à la télémédecine. Mais encore une fois, faut pas penser que tout va changer miraculeusement grâce au digital et au numérique. Mais dans des pays où le déplacement est compliqué, dans des pays où on manque de ressources, eh bien, être capable d'envoyer de l'information, de l'échanger facilement, ça change la vie des gens.
Parce que c'est vrai que c'est un risque, effectivement, de faire du numérique une solution miracle à tous les problèmes. Je voulais vous citer un professeur d'origine kényane qui est disparu l'année dernière, qui s'appelle Calestous Juma. C'est un spécialiste du développement. Il mettait en garde, il y a quelques années, justement, contre ce qu'il appelle, je cite, « des discours fallacieux qui portent à croire que l'Afrique peut directement passer à une économie de services sans avoir d'abord construit une base manufacturière. Il était cité par le Financial Times, c'était l'année dernière. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah bah, c'est vrai, on ne peut pas non plus... cela dit, aujourd'hui, il faut rappeler quand même que l'économie africaine est essentiellement agricole. 60% des Africains travaillent encore dans le secteur agricole. 30% dans le secteur des services et 10% dans le secteur industriel. Donc il faut aussi rappeler ces chiffres. Donc le secteur industriel en Afrique, c'est un problème. Hein. Reste lui-même excessivement faible. Je rappelle aussi qu'en Europe, et même en France, hein, contrairement à une idée reçue, le secteur industriel n'a jamais été le premier secteur économique, hein, puisque c'était, en termes de proportion, on est passé de l'agriculture au service, qui est devenu majoritaire, et l'industrie en dessous. Contrairement peut-être à une idée aussi un peu reçue. Par contre, je suis entièrement d'accord avec ce professeur. C'est pas le numérique, c'est pas les télécoms qui vont tout changer. Pour moi, c'est un facilitateur. Ça apporte des solutions. Et encore une fois, ces solutions, je pense que l'image forte qu'on doit avoir, c'est ça remplace en grande partie ces difficultés qu'on a à se déplacer dans le continent. Par des questions de problèmes d'infrastructure, par des frontières. Vous avez dit 54 pays, bah c'est autant de frontières, enfin même plus d'ailleurs. Et c'est une vraie difficulté, la mobilité. Il faut se rendre compte, c'est même peut-être un peu triste à dire, mais quand il y a des problèmes de déplacement de population, pour des raisons de famine ou de guerre, pour beaucoup d'Africains, le numéro de téléphone, c'est son ultime adresse. Il n'y a plus d'adresse physique, parfois pas d'email. Donc le seul moyen pour des gens qui connaissent cette famille, par exemple, parce que c'est souvent un téléphone dans ces cas-là par famille, le seul point de contact avec le reste de la famille, des amis, des gens qui ont été déplacés, séparés, c'est le téléphone mobile. Donc il joue quand même un rôle économiquement important. Après, c'est pas ça qui va tout changer, hein, c'est encore une fois un facilitateur. Et deux, tout n'est pas rose non plus dans ce domaine-là.
Oui, et puis il peut y avoir aussi, on imagine, la tentation pour les autorités, pour les gouvernements, de se dire que après tout, le téléphone pourrait résoudre tout un tas de défis qui, pour l'instant, sont en souffrance sur la question de la santé. On en a parlé sur la question de l'éducation, de l'emploi, de l'agriculture, et de se dire, pas la peine de créer un dispensaire, d'envoyer des médecins. Après tout, grâce à une application, par une entreprise, on peut faire arriver la médecine dans un village. Vous voyez, est-ce qu'il y a une tentation du côté des autorités de se reposer sur cette révolution numérique pour ne pas aller plus loin dans des réformes ou une modernisation de tout un tas de services de base?
Ça peut être un risque. Ça peut être un risque de faire les mauvais choix. Je vais vous donner un exemple. Dans l'agriculture. Dans l'agriculture, il y a eu des grands programmes financés par les Américains, notamment sur la côte est africaine, donc les pays anglophones, qui consistaient à dire, on va équiper les agriculteurs, les fermiers, les farmers, d'un téléphone mobile. Comme ça, ils pourront voir, c'était à vos extraits d'ailleurs, ils pourront voir la météo, avoir des informations comme ça. Super. Sauf que c'est pas le fait d'avoir la météo qui va changer la vie des agriculteurs. Il y a d'autres modèles qui sont actuellement mis en place, je pense au Nigeria, en Côte d'Ivoire, où on dit non, l'enjeu c'est pas d'équiper 1 million d'agriculteurs dans un pays en téléphone mobile, c'est plutôt d'équiper les collecteurs, les meuniers, ceux qui vont leur acheter leur production, pour qu'ils aient une bonne information, et ça c'est très facile via téléphone mobile, de l'ensemble des informations sur qui va acheter cette production. Aujourd'hui en Afrique, le problème numéro un à l'agriculture, c'est pas de savoir par SMS s'il a la bonne météo ou pas, c'est de savoir si on peut acheter ou non, vendre ou non sa production. Aujourd'hui, la moitié, dans certains pays, la moitié de la production agricole des fermiers n'est pas vendue, ne la vendent pas. Parce que le niveau qu'il doit acheter n'a pas l'info, est-ce que quelqu'un va me l'acheter ? Et aujourd'hui, vous avez des très beaux programmes, je pense au Nigeria notamment, par exemple sur le maïs, où on est en train de mettre en place tout un système où on échange cette information. Encore une fois, la téléphonie, le digital, c'est de l'échange d'informations, où les meuniers, les transformateurs ont été équipés, et ce n'est pas tous les agriculteurs, mais ils ont l'information qu'il y a des besoins, on va acheter leur production. Pour certains agriculteurs, ça double juste leur vente de produits, ça change leur vie.
Mais est-ce que ça peut changer à très grande échelle un problème structurel, hein, ce problème d'inadéquation entre l'offre et la demande sur l'agriculture, le fait que des pays importent, comme vous le disiez, par exemple du riz alors qu'ils en sont producteurs, là je pense à la Côte d'Ivoire par exemple, mais est-ce qu'encore une fois le portable peut apporter une solution d'échelle globale, une vraie solution à l'échelle d'un continent? Ça paraît quand même difficile à accepter.
Alors à l'échelle d'un continent non, parce que je pense que pays par pays vous avez des filières différentes, des réglementations différentes. Donc ça reste des solutions pays par pays. Par contre, j'aime bien votre exemple parce que je travaille dessus justement sur la Côte d'Ivoire et le riz. Ça c'est pour moi un très bon exemple assez caricatural. Il y a 800 000 riziculteurs. Ils produisent l'équivalent de la consommation annuelle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire importe la moitié de sa consommation du Vietnam et de Chine, pour une raison très simple, c'est que 60% de la production des 800 000 riziculteurs n'est pas achetée par les meuniers. Et pourquoi les 3 000 meuniers, ils sont 3 000 en Côte d'Ivoire, n'achètent pas cette production? Parce qu'ils se disent, est-ce que derrière, on va me l'acheter? Et là, des risques et la chance du riz est en train de regarder un système qui va permettre, via téléphone mobile, non pas d'équiper les 800 000 riziculteurs, ça coûterait une fortune, mais les 3 000 meuniers et les 300 transformateurs, qu'ils s'échangent par mobile l'information sur qui achète quoi. Techniquement, parce qu'on a des cas similaires dans le maïs au Nigeria, à horizon 5-6 ans, ça pourrait faire en sorte que 80% des riziculteurs voient toute leur production achetée. Ces gens-là, ça peut juste doubler leurs revenus. Et je ne parle même pas de productivité agricole, d'engrais, tout ça. Non, juste on achète leur production. En Côte d'Ivoire, en moyenne, un riziculteur vend pour 850 euros par an son riz. C'est son revenu, hein, 850 euros par an. Il y a deux récoltes et il y a la moitié qu'il ne vend pas. S'il vendait toute sa production, il doublerait juste son revenu. Faites-moi confiance que ça change la vie.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon. De Dakar à Nairobi, les promesses de la révolution technologique, on en discute jusqu'à midi avec notamment Jean-Michel Huette, spécialiste des télécoms africaines, associé au cabinet de conseil BearingPoint et auteur de l'ouvrage Le Digital en Afrique, les 5 sauts numériques aux éditions Michel Lafon. C'était en 2017. Je voudrais vous faire écouter un témoignage, Jean-Michel Huette, c'est celui de Aline Uwaze, une jeune entrepreneuse rwandaise.
J'ai avant tout envie de faire partie de ceux qui trouvent des solutions dans ce pays. Le président a amorcé des projets, mais on a besoin d'une jeune génération qui conçoive des technologies et qui investisse dans ce secteur pour développer notre société et notre économie. Et je voudrais faire partie de cette aventure.
Voilà, il s'agissait de Aline Uwaze, une jeune entrepreneuse rwandaise, dans un documentaire Arte paru en juillet 2018. Et elle souligne cet enjeu important, effectivement, pour l'Afrique, pouvoir faire émerger ses propres leaders. Autrement dit, est-ce que l'Afrique, les pays africains, dans leur diversité, peuvent, à l'avenir, être autre chose qu'un grand marché à conquérir pour des entreprises étrangères?
Alors, c'est déjà en partie le cas. Si je prends les télécoms, le plus gros opérateur télécom en Afrique s'appelle MTN. C'est un opérateur sud-africain, présent dans une vingtaine de pays. Donc le numéro un des télécoms en Afrique, c'est un acteur sud-africain. Après, il y a Orange, il y a Vodafone. Vous avez aussi Maroc Télécom, qui est un acteur majeur. Je pense que c'est l'opérateur télécom historique qui a le mieux vécu et survécu. Il est présent dans plus d'une douzaine de pays. Donc oui, vous avez avec MTN, Maroc Télécom, l'exemple d'acteurs locaux africains qui sont des vrais success stories. Ce qui n'empêche après des Orange ou Vodafone, bien sûr, de fonctionner. Deuxième exemple, j'aime bien le témoignage qu'on a écouté, parce que c'est aussi un phénomène récent et je pense que les gens ne se rendent pas compte depuis Paris. Il y a une vraie tendance au développement d'entrepreneuriat et des start-up en Afrique. Il y a 10 ans, je ne vous aurais pas dit ça. Il y a 5 ans, je commençais. Maintenant, c'est une réalité. Aussi bien des entrepreneurs locaux, des gens de la diaspora qui investissent en Afrique, c'est une vraie tendance de fond. Et il y a des beaux projets qui fonctionnent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans des domaines aussi importants, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est énergie. Et il y a des domaines où le digital a vraiment fait des choses vraiment formidables en Afrique, c'est tout ce qui est paiement. Avec le paiement mobile, qui est un vrai sujet, parce que là, pour le coup, les Africains, c'est pas le seul, mais ça fait partie des sujets où l'Afrique a, en termes d'usage, j'entends, une dizaine d'années d'avance, voire plus, sur la France ou l'Europe. Puisqu'il y a certains pays, alors vous citiez Nairobi, hein, au Kenya, la moitié des transactions financières passent par téléphone mobile. Je pense que quand on aura ce taux-là en France, rendez-vous en 2060.
Alors c'est vrai que c'est un exemple intéressant en termes de nouveaux usages. Hein. Cette question du fait de payer, de pouvoir payer par les téléphones. Vous parlez de votre ouvrage, Jean-Michel Huette, du concept d'innovation frugale et même aussi d'innovation inversée. Est-ce que précisément le fait d'avoir développé une bancarisation par les téléphones portables, et bien précisément là on a affaire à une innovation qui est née en Afrique, qui est née par le bas de la société et qui remonte et qui va peut-être même devenir pionnière pour d'autres pays.
Innovation frugale, oui. Inversée, pas encore. L'innovation inversée, c'est de dire qu'une innovation venant du Sud va avoir des conséquences directes dans l'usage dans les pays du Nord.
D'accord. Alors, innovation frugale, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par ce concept?
Alors, innovation frugale, c'est tout simplement s'adapter aux besoins frugaux dans des pays africains. Je rappelle que le niveau de vie n'a strictement rien à voir avec ce que nous connaissons en Europe. Je vais peut-être donner deux chiffres juste pour qu'on perçoive. On estime que ce qu'on appelle la classe moyenne en Afrique, alors déjà, ce n'est pas la classe moyenne à la française, c'est les 25% les plus riches. C'est ça la classe moyenne, enfin entre 25 et 5% les plus riches. Ça commence à 4 dollars par jour. Et c'est entre 4 et 20 dollars par jour par membre du foyer. Le seuil de pauvreté en France, c'est 30 dollars. Donc, des gens qui s'estiment aisés, classe moyenne, et donc heureux, hein, parce que ce n'est pas les gens qui sont dans la paupérisation en Afrique, ils sont encore deux fois moins en termes de revenus riches que ce qu'est le seuil de pauvreté en France. Il faut juste avoir ça en référentiel, parce que ça montre qu'il y a un vrai écart important de richesse. Et donc, dans ce contexte, il faut adapter les offres de services, les offres de produits, ces différentiels de prix, de gens qui sont encore parfois dans certains pays payés à la journée, voire à la semaine. Hein. Le salaire mensuel sur le compte en banque, c'est une exception européenne. On va avoir tout ça en tête. Et il y a une dizaine d'années, d'abord au Kenya, il faut rendre à M-Pesa, qui était un acteur d'ailleurs local, ce succès. Donc M-Pesa, c'est la monnaie mobile, le M de mobile dans le langage kényan. Eh bien, M-Pesa a été le premier grand succès de la téléphonie mobile pour faire des paiements. Donc utiliser son téléphone, alors, pour faire des transferts d'argent aussi, c'est payer sa famille. Donc un des cas d'usage typique, c'est le fils qui est à la ville, qui envoie de l'argent à sa mère ou à ses parents restés au village, et qui peut avoir de l'argent à utiliser sur leur téléphone. Donc il y a du transfert d'argent.
Et là, ça passe absolument pas par aucun établissement bancaire.
Pas la peine. Non, ça passe par les réseaux. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte en banque pour ça. Et encore une fois, dans des pays où parfois 90% de la population n'a pas accès à un compte en banque, ça change la vie. Dans le témoignage tout au début, c'est super intéressant parce que je crois que c'est le chauffeur taxi, il me semble.
Un chauffeur taxi, ouais, au Rwanda.
Exactement. Il disait, ça me permet déjà de faire payer, et il commence à épargner. Quelque chose aussi basique pour nous Français que l'épargne, quand vous n'avez pas un compte en banque, c'est compliqué d'épargner. C'est encore plus compliqué d'avoir un crédit. Ce genre d'usage, on commence à avoir des microcrédits, de la micro-épargne, de la micro-assurance. C'est ce qu'on appelle, à l'ONU dans les jargons, l'inclusion financière. Mais c'est donner à différentes personnes à titre individuel le moyen d'avoir accès à des services financiers qui pour nous sont très basiques. Mais quand on ne les a pas, ça pose un vrai problème. On ne peut pas emprunter. On ne peut pas emprunter pour acheter une mobilette, une voiture, peut-être demain une maison. On a très peu d'assurance en Afrique. Et donc, comment je couvre un risque qui peut être un risque de santé, bien entendu. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là, qui sont des évidences pour nous en France, là-bas, ce n'est pas du tout une évidence. Et la téléphonie mobile permet d'avoir des succès. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des succès qui ne sont pas 100% africains ou 100% européens. C'est souvent des mix entre les deux. Et je pense que, c'était votre question, entre acteurs européens, acteurs locaux, africains, des fois ça travaille ensemble. Une des belles start-up dans le domaine du paiement mobile, c'est InTouch, qui est sénégalaise, qui permet l'agrégation entre les banquiers, les télécoms, les commerçants. Derrière InTouch, c'est une start-up qui a été financée par deux entreprises françaises, Atos, alors on peut dire normal, c'est la technologie. Alors,
la start-up, elle est de quelle origine?
Sénégalaise. Incubée au Sénégal. Il y a Atos, pour technologie, et il y a Total. Alors là, vous allez me dire Total, téléphonie, ça n'a rien à voir. Sauf que Total, c'est 5000 points de vente en Afrique, les stations-service. Et donc, ils se sont dit, un acteur du paiement mobile dans un continent où on paye avec son téléphone, demain, ils vont payer ou prendre des services ou venir récupérer des colis dans nos stations-service. Et c'est intéressant parce que ça vous montre que c'est à la fois une vraie start-up africaine faite par un Sénégalais, Omar Cissé, et puis d'un autre côté, avec des financements français, pour le coup, qui l'ont soutenu. Alors qu'aujourd'hui, c'est un succès. Il y a 3-4 ans, personne n'aurait dit que c'était un succès assuré. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien le bon mélange entre du numérique, parce que c'est une application mobile, et du physique. Parce que quelque part, le fait d'avoir accès aux stations-service Total, là, c'est du vrai physique, ça aide aussi de cette start-up numérique. Donc c'est ce mélange entre du numérique et du physique qui fait du succès.
Et précisément, dans cet exemple d'une start-up sénégalaise financée par des entreprises françaises, est-ce que vous avez l'impression, Jean-Michel Huette, qu'on a là un modèle de développement à peu près équitable, ou ce que je posais tout à l'heure quand même la question de à qui profite cette révolution numérique, et est-ce que les entreprises africaines et bien sûr les consommateurs africains peuvent à la fois en profiter et être acteurs? Alors typiquement dans cette forme-là, cet exemple-là, vous avez l'impression que c'est plutôt équitable, ou bon, on a encore une économie qui dont les investissements viennent forcément de l'extérieur?
Il y a une grande partie des investissements qui viennent de l'extérieur, ça c'est clair, notamment parce que dans la partie télécom du sujet, il y a de gros investissements en réseau. Donc ça, c'est beaucoup d'argent. Après, dans tout le phénomène des startups, on est beaucoup plus sur des usages, des services, donc ça nécessite parfois moins d'investissements, et là, on trouve plus d'acteurs africains. Donc, encore une fois, quand on parle de start-up en Afrique, il y a 5 ans, je vous aurais parlé de ça, vous m'auriez regardé avec des gros yeux en pensant que j'étais à moitié fou. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais c'est un phénomène très récent. Hein. Cette vague d'entrepreneuriat qu'on a en Afrique, même s'il n'y a pas encore la licorne magique dont tout le monde voudrait qu'elle arrive, c'est un phénomène très récent.
Alors la licorne, peut-être rappeler ce qu'on appelle une licorne dans le secteur du numérique. Oui. Hein, ce sont ces géants du numérique, comme, par exemple les GAFA.
Exactement.
Et d'ailleurs, c'était une question que je voulais vous poser. Ah. Vous voyez apparaître, peut-être dans certains secteurs, j'ai entendu parler par exemple d'une plateforme en RDC de musique en ligne qui commence à concurrencer des acteurs comme Deezer ou Spotify. Est-ce que vous voyez dans les années à venir apparaître ces fameuses licornes ou très grandes entreprises qui pourraient être les futurs GAFA en Afrique?
Peut-être que le prochain Mark Zuckerberg est africain. Quand on dit qu'il y a beaucoup de start-up et beaucoup d'innovation en Afrique, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de travail sur les usages. Et quand on parlait tout à l'heure d'innovation frugale, c'est des vraies idées, parce que dans un contexte qui est économiquement difficile, hein, ce qui est une réalité africaine, des fois, il faut trouver la bonne idée pour avoir ce bon usage. Et ce n'est pas qu'une question économique. C'est encore un continent où il y a un taux important d'analphabétisme. Alphabétisme, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas lire des chiffres ou des lettres. C'est plus compliqué d'écrire. Mais donc, en sachant que les gens... qu'on fait quand même la différence entre 1, 2, 3, dièse et une autre formule, on peut faire des choses. Donc, vous voyez, la frugalité, c'est pas qu'économique, ça peut être aussi culturel. Donc, c'est une vraie source d'innovation. Après, dans « À qui profite le crime ?», j'ai envie de dire, et sans plaisanter, hein, réellement, je pense d'abord aux citoyens, alors qu'ils sont après usagers, consommateurs, etc., parce que ça a vraiment changé la vie de beaucoup d'Africains, et vos témoignages le disaient. Après, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait, parce que des fois, il peut y avoir des laissés pour compte. L'exemple de la plateforme dans RDC que vous citiez, c'est intéressant, parce qu'un des gros problèmes en Afrique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de droits d'auteur. Donc, les artistes en Afrique, ils vivent très mal, voire même pas du tout de leur œuvre. Parce que les droits d'auteur ne sont pas pris, ne sont pas gérés. Alors que, utilisant des canaux numériques via les téléphones, ça serait très facile à tracer et très facile de donner de l'argent à ces artistes. Donc vous voyez, il y a un vrai bénéfice pour les consommateurs qui écoutent encore plus de musique plus facilement et ont un accès à la culture encore plus grand. Ça défend et protège la culture parce qu'on peut enregistrer, ce qu'on faisait beaucoup moins avant, on peut diffuser. Par contre, les artistes eux-mêmes aujourd'hui font partie des perdants de cette révolution numérique. Donc vous voyez, on est vraiment au début de l'histoire.
Allez, restez avec nous Jean-Michel Huette. C'était le groupe sud-africain de musique électronique Batouk avec ce titre Daniel. Allez, tout de suite en direction le Sénégal, on rejoint un deuxième invité.
Donc premièrement, dañuy dugg ci ki nga xamne mom nga bëgg envoyer message vocal bi. Par exemple, buñu gisé dinañ gis touche portable bi ni nga xamne mom lañuy tag ni. Mom lañuy cliquer. Suñ ko cliquer automatiquement dinañ gis vocal bi di ki légui liñuy wax yépp instant bi day dugg légui suñu su fekké paré nañ ci vocal bi rek dañuy bayyi automatiquement mu dem su fekké ñu bëgg vocal bi annuler dañuy xëc ci loxo ci fini mu annuler donc ñu bayyi vocal bi dem donc vocal bi dem na ñu essayer tamit annuler bi donc
Ce qu'on vient d'entendre, c'est un tuto en Wolof, un tuto qui explique eh bien, comment installer une application de messages vocaux sur son téléphone portable. Et pour parler précisément de ces questions, nous sommes rejoints par Hadj Bangali Cissé. Bonjour.
Bonjour madame.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur indépendant en sciences de l'information et de la communication. Vous avez dirigé l'ouvrage « Communication et société en crise, savoir y entrer, pouvoir en sortir », c'était aux éditions de l'Harmattan en 2015. Et vous avez mené une étude récemment, une enquête sur la sociologie des usages de l'Internet mobile. Une enquête qui a donné lieu à la publication d'un article publié dans la revue Réseau, « L'usage d'Internet dans les classes populaires sénégalaises, le cas des marabouts, marchands ambulants et femmes de ménage ». Et justement, vous vous êtes intéressé à cette population très précise. C'est une population qui a pour point commun d'être assez pauvre, de souffrir d'exclusion, voire de marginalisation. Pourquoi ce choix? Pourquoi s'être intéressé à leurs usages précisément du mobile par cette catégorie de population?
Voilà. Tout à fait, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Donc, je me suis intéressé à ce type de population au niveau du Sénégal. Pour la simple raison que ce sont souvent des populations qu'on a... Il n'y a pas beaucoup d'études qui sont consacrées pour ces classes de population. Donc je me suis intéressé à cela, juste pour voir qu'il n'y a pas effectivement que les classes supérieures qui s'intéressent à Internet, mais il y a aussi les classes, ce qu'on appelle les classes populaires aussi, qui d'une manière ou d'une autre utilisent Internet pour leurs activités hein, professionnelles ou bien pour la socialisation au niveau du Sénégal.
Oui, parce voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que même si ces populations sont plutôt précaires, ce qu'on peut constater, c'est que la plupart, voire la majorité, possèdent un smartphone.
Tout à fait. Donc, c'est un effet de mode hein, au niveau du Sénégal. Donc, toutes les personnes désirent avoir un téléphone portable, ne serait-ce que pour communiquer entre amis, ou bien approfondir les liens familiaux.
Voilà. Et vous avez par exemple le témoignage de Massar, qui est un marchand ambulant, et à propos de la messagerie WhatsApp, il vous dit « Moi qui suis analphabète, il me convient parfaitement car je n'ai pas besoin d'envoyer de messages écrits, je n'envoie que des messages audio ». Et donc, est-ce que ça veut dire que eh bien, ne savoir ni lire ni écrire, eh bien, c'est pas du tout un facteur excluant du numérique, paradoxalement?
Voilà. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut pas oublier que nous sommes dans une civilisation de l'oralité au niveau du Sénégal. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens instruits. La plupart des personnes sont des analphabètes. Donc, du coup, ils utilisent beaucoup la langue nationale qu'on appelle le Wolof. Donc, c'est une langue qui n'est pas encore appris au niveau de l'école. Hein. On le parle couramment. Donc, c'est l'oralité. Donc du coup, les Sénégalais utilisent beaucoup l'oralité hein, pour transmettre des messages au niveau de WhatsApp. Donc au lieu d'écrire, ils ont des difficultés dans l'écriture. Donc ils envoient directement des messages audio ou vidéo et c'est plus facile pour eux de communiquer avec leurs concitoyens.
Et vous disiez justement, le Wolof n'est pas enseigné à l'école. Si je dis pas de bêtises, il ne fait pas partie des langues officielles au niveau de l'administration. Est-ce que ça veut dire que ce type de messagerie et ce type d'échange numérique, d'une certaine manière, permettent eh bien, de se réapproprier la langue vernaculaire, le Wolof?
Pas spécialement, mais disons que ça leur permet aussi de franchir l'obstacle de la langue française, par exemple, hein, dans la communication. Il se trouve que dans l'écrit, ils ont des difficultés pour écrire. Donc, pour eux, c'est un moyen de franchir ce gap-là et puis de communiquer plus facilement avec l'extérieur.
Et vous avez aussi deux femmes de ménage que vous avez interviewées qui vous disent « Eh bien, pour les gens comme moi qui n'ont pas fait l'école, c'est important d'utiliser Internet car les gens te considèrent positivement. » Et une autre vous dit « Utiliser Internet me montre que je suis comme tous les autres Sénégalais. » Et vous parliez justement, Hadj Bangali Cissé, de la notion d'affichage social, une manière, l'usage du téléphone, un des usages du téléphone portable aujourd'hui au Sénégal, c'est aussi de s'affirmer socialement.
Tout à fait. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un effet de mode. Donc, les gens ont tendance à avoir leur portable, Internet, soit pour s'afficher en public, c'est une forme de reconnaissance de soi, hein. Donc, pour une histoire de dire que, bon, voilà, j'existe, j'ai un téléphone portable, j'existe. Par ce biais-là, je peux transmettre des choses, je peux participer à la vie citoyenne, etc., etc. Donc, pour eux, c'est un moyen de reconnaissance de soi.
Mais au-delà de la reconnaissance, est-ce que le téléphone peut aussi très concrètement faciliter l'insertion économique?
Oui, d'une certaine manière, parce que bon, ça leur permet aussi d'avoir des échanges commerciaux, par exemple. Ça leur permet par exemple, pour les femmes de ménage, souvent elles partent à l'extérieur pour trouver des places, du travail beaucoup plus rémunérant au niveau du Maroc, par exemple. Donc, avec Internet, elles ont la possibilité d'établir ce lien-là avec les personnes qui sont à l'extérieur. Donc, pour eux, c'est un canal très important pour trouver du travail.
Et puis, pour rester en lien avec la famille aussi, hein, votre enquête montre à quel point c'est important pour des gens qui sont obligés de se déplacer, d'aller travailler en ville, par exemple. C'est le cas des femmes de ménage qui quittent le village et vont travailler dans des familles en ville. Est-ce que ces messageries instantanées, qu'est-ce qu'elles ont changé à la nature des liens familiaux? Est-ce qu'elles ont remplacé des systèmes de communication qui préexistaient, ou est-ce qu'elles ont instauré de nouveaux liens quelque part? Et dans quelle manière est-ce qu'elles peuvent aussi les modifier?
Disons qu'ils n'ont fait que renforcer davantage ces liens familiaux, d'autant plus que ça existait auparavant. Donc avec Internet, ça amplifie davantage ces types de relations. Donc c'est plus facile, par exemple, de communiquer avec sa famille tout en restant à Dakar. Donc les communications coûtent extrêmement cher. Avec WhatsApp, vous avez la possibilité d'avoir les visios, la famille, de discuter, etc., sans pour autant se déplacer. Donc, en termes de temporalité, c'est extrêmement important.
Je reviens en plateau avec notre invité Jean-Michel Huet. Je vous voyais écouter avec attention cette interview. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bon, moi, je partage ce qui a été dit. C'est un vrai outil important pour les populations, y compris les plus démunis. Et l'exemple a été confirmé. Même un analphabète peut utiliser ces moyens-là. La dimension affirmation sociale, elle est véritable. Alors, il y a des aspects un peu rigolos. Par exemple, il y a eu toute une période en Côte d'Ivoire où vous aviez l'iPhone à 10 €, qui était un faux iPhone. Mais ça permettait de me le poser sur la table et de montrer que j'avais un iPhone.
Vous voulez dire que c'était un iPhone en plastique?
Ah oui, c'était un faux, totalement.
Il ne permettait absolument pas de téléphoner.
Mais ça montrait qu'on avait un iPhone. De manière un peu plus sérieuse, typiquement au Sénégal, je crois que c'est Orange qui l'avait fait, vous parliez d'affirmation sociale, on peut aller au tout démarrage de la vie, la déclaration de naissance. Il y a tout un programme qui a été fait au Sénégal sur la déclaration de naissance, gérée par téléphone mobile dans les villages, reculés, pas dans les grandes villes, pour permettre au chef de village de faire l'acte 1 de déclaration de naissance d'un enfant. Il le faisait sur téléphone mobile. Parce que sinon, un des gros problèmes au Sénégal, c'est que quand il y a des naissances dans les zones un peu plus reculées, en dehors de Dakar et des grandes villes, parfois on n'a pas l'information. C'est une information utile pour les politiques publiques générales, où est-ce qu'il faut mettre des crèches ou autres, et puis aussi pour le suivi des personnes, parce que c'est cette déclaration de naissance que plus tard il y aura l'état civil. Et ça s'est fait depuis 7-8 ans par téléphone mobile.
Merci beaucoup Adjbangali Cissé pour votre intervention ce matin dans l'émission. Tout de suite, on rejoint un troisième invité. Alors, on va parler cette fois de l'importance des portables en contexte de migration.
C'est important d'avoir un téléphone, d'avoir le Wi-Fi pour parler avec notre famille et nos amis. C'est pas important juste pour les réfugiés, mais pour le monde entier. Pour les réfugiés, pour les autres, pour tout le monde. Je veux apprendre le français et grâce à la Wi-Fi, je peux télécharger des programmes d'apprentissage.
Voilà, extrait de Wainak, un web documentaire diffusé sur la crise des réfugiés. C'était avec Courrier International en novembre 2016. Bonjour Dana Diminescu.
Dinescu, oui, bonjour.
Bonjour, pardon d'avoir écorché votre nom. Vous êtes sociologue, enseignante, chercheur à Télécom Paris Tech. Vous avez fondé et dirigé depuis 2003 le programme Migration et Numérique de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme à Paris. Et vous vous intéressez depuis très longtemps à cette nouvelle réalité dans le processus de migration, le fait que les personnes exilées soient de plus en plus connectées, alors que ce soit Internet ou réseau téléphonique. Qu'est-ce que ça change concrètement, le fait d'avoir avec soi un téléphone portable avec tout un tas d'applications et la possibilité, bien sûr, de passer des appels? Qu'est-ce que ça change concrètement?
Mais là, le changement est de taille. D'abord parce que, comme vous avez entendu un peu avant, en fait, ça répond à des besoins importants des migrants. Tout d'abord, c'est de compulsion de proximité. Donc chaque migrant fait l'expérience, rester connecté avec la famille qui est à distance. Mais aussi, dans les pays d'accueil, donner une adresse, intégrer mieux, faire de réseau, trouver un emploi, envoyer de l'argent. Mais les technologies, bien entendu, c'est un peu comme les pharmacons, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Et les mauvaises choses sont aussi des nouvelles formes de contrats, des smart borders, un tracking, des traces numériques, des nouvelles formes de ghettoisation, de plus en plus un devoir de présence. Parce que ce que permet le téléphone mobile, c'est surtout de switcher d'une mode d'existence à une autre, d'une manière instantanée, et souvent quotidien. Et donc, ça a donné des pratiques nouvelles. Ça fait que, à part le devoir d'envoyer de l'argent, et maintenant il y a un devoir de présence, d'être présent en lointaine, et parfois c'est vécu bien, et parfois comme un soulagement, et parfois comme une chose qui pèse dans la vie des migrants.
Le fait de devoir donner des nouvelles à la famille, vous voulez dire que c'est une forme de pression sociale quelque part? Le fait que la famille sache que la personne a un téléphone, est connectée, c'est dans ce sens-là que vous dites que ça peut peser, c'est une forme de pression sociale?
Il y a bien entendu la bonne chose qu'ils peuvent être en contact et qu'ils peuvent assurer la famille, mais il y a aussi des demandes que la famille adresse aux migrants. C'est pas par hasard qu'à Montreuil, beaucoup des migrants perdent le téléphone mobile à un moment donné.
Alors, je reviens au début du processus d'émigration. Souvent, bien sûr, on le sait, ces migrations, elles sont forcées, elles se passent par des voies illégales, dangereuses. Est-ce que la première utilité d'un téléphone portable dans ces conditions, c'est avant tout d'être une aide, d'être un secours, hein. On se souvient, il y a quelques années, de tout un mouvement que vous qualifiez d'ailleurs de technophorie, hein, où, tout un tas de développements d'applications censées aider les migrants. Est-ce que, avec un peu de recul aujourd'hui, ça a permis de vraiment créer des services utiles et durables pour ceux qui entreprennent ces traversées?
Oh, je ne pourrais pas dire que les applications sont conçues dans la mouvance de la crise de 2015, sont utilisées très peu d'entre eux. On a fait une étude sur une centaine d'applications conçues pour aider les réfugiés. Alors, sincèrement, c'est très décevant parce que même pas une n'est pas utilisée. Je ne l'ai pas trouvée sur le téléphone des réfugiés. Donc, ça a plusieurs explications. Peut-être que ce n'est pas ici le moment d'évoquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais ce que je voudrais dire, le migrant connecté est une réalité qui ne date pas d'hier et ni de la crise de 2015. Il fait son apparition une fois qu'il utilise le téléphone mobile à la fin des années 90 et qui installe une mode d'existence différente formée sur la joignabilité permanente et sur une présence connectée. Quand je dis présence connectée, il s'agit de cette possibilité de joindre la personne qui porte ce téléphone avec sur lui. Et bien entendu, pour les gens qui se déplacent et qui doivent s'orienter dans l'espace, prendre des informations utiles pour avancer, ne pas céder aux différents dangers, s'informer, etc. Le téléphone mobile, le smartphone sont des outils importants.
Oui, quand je parlais donc d'une aide ou d'un secours, c'est comme ça qu'on peut le qualifier. Bon, après, il faut raison garder, c'est-à-dire qu'un téléphone n'est pas non plus un visa ni un billet d'avion.
Non, mais ils utilisent comme tout le monde les réseaux Facebook, WhatsApp, c'est ça que je veux dire, pas les applications spécifiquement conçues pour eux. Il y a 2-3 cas différents, mais en fait, toutes les applications conçues sont très très peu utilisées. Le solutionnisme n'a pas apporté des solutions pour les réfugiés.
Oui, on voit bien sûr les limites. Un téléphone, je disais, ne peut pas non plus permettre de garantir la survie lors de la traversée de la Méditerranée.
Ça peut aider.
Dana Diminiscu.
C'est performatif dans l'usage, notamment de smartphones.
Vous parliez aussi du danger que peut représenter le fait de posséder un téléphone portable, notamment lors du passage d'une frontière, notamment parce que les téléphones portables permettent bien sûr d'être tracés, d'être repérés. Ça peut être aussi un problème de posséder un téléphone ?
Oui, ça devient une preuve d'une traversée clandestine. Ça peut devenir une preuve aussi s'ils sont traqués par, je sais pas, les autorités qu'ils fuient dans leur pays d'origine. Et de plus en plus, les réfugiés prennent conscience du fait que, voilà, on utilise ces devises, on est des navigateurs sur des grandes infrastructures digitales et on laisse des traces partout où on l'utilise. Et pas seulement les migrants, nous aussi, hein.
Et alors, dernière question, une fois qu'on est intégré, qu'on a à peu près réussi son parcours, il y a bien sûr cette fonction très importante qui est celle d'envoyer de l'argent. Et là, ce que vous expliquez dans votre étude, c'est que le téléphone portable a complètement changé la manière d'envoyer de l'argent. C'est-à-dire, avant, on envoyait une grosse somme par Western Union, on ne savait pas vraiment comment elle était gérée sur place. Avec le téléphone, on peut faire des envois beaucoup plus ciblés, payer soi-même les entrepreneurs de sa maison, par exemple, plutôt que de confier l'argent à sa famille. Ça, c'est un changement majeur.
Alors, il y a un vrai engouffement des acteurs économiques qui sont des start-up ou des grandes banques ou Western Union, etc. pour innover dans le domaine du transfert d'argent parce que il y a des sommes intéressantes, non, dans cette mondialisation par le bas qui circulent. Et donc, là, l'innovation a explosé carrément. Maintenant, ce qu'on a vu dans l'étude qu'on a menée, c'est que plus on ouvre un couloir digitalisé individuel, plus la personne, le migrant, l'utilise. Et concrètement, dans la vie de tous les jours, différentes formes de transfert d'argent se maintiennent. Ça veut dire si j'ai une urgence, je vais envoyer toujours par Western Union. Si je voudrais que cet argent-là se voit dans le village où j'envoie l'argent, j'envoie par mon voisin. Par contre, si pour les besoins quotidiens et aussi pour une forme de présence là-bas, je l'envoie par les voies digitalisées. Parce que il peut le gérer à distance. Et c'est ça que j'explique par les présences connectées. Ça, c'est une forme de présence connectée, de gérer son argent d'un pays destinataire dans le pays d'origine. Et ça, c'est nouveau.
Et c'est aussi, comme vous le dites, effectivement une diversification des usages. Je reviens en plateau avec Jean-Michel Huette. Même question que pour tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une réaction à ce qu'on vient d'entendre, à ce concept de migrants connectés sur lequel travaille Dana Diminescu?
C'est un vrai sujet important et s'illustre bien, le témoignage l'illustre, hein, la notion d'ubiquité. Le téléphone mobile permet de faire des choses sans être physiquement présent. Et le simple fait de donner de l'argent par téléphone mobile, c'est comme du cash. Hein. Mais de le donner sans être physiquement présent, ça change la vie et ça permet de faire des choses intéressantes. Après, je pense qu'il y a quand même une distinction à faire. J'imagine que dans cette étude, c'est beaucoup des migrants qui viennent en Europe. Le flux migratoire numéro un est intra-africain, donc des Africains qui restent en Afrique, mais qui changent de pays pour des raisons économiques, politiques, médicales parfois. Et là, je pense que pour eux, garder le téléphone, c'est aussi très important, peut-être encore plus que pour ceux qui viennent en Europe. Encore une fois, parce que parfois, c'est la dernière adresse qu'ils ont. C'est plus facile après de retrouver une adresse, entre guillemets, plus physique en Europe, parfois qu'en Afrique. Donc je pense qu'il faut distinguer les deux cas de figure, le migrant qui vient en Europe, avec les difficultés qu'on connaît, mais aussi les migrants en Afrique.
Eh bien, merci beaucoup Dana Diminescu d'être intervenue dans l'émission ce matin. Je rappelle donc que vous avez fondé et dirigé depuis 2003 le programme Migration et Numérique de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme à Paris. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes, Jean-Michel Huette. Il y a un point que je voulais qu'on aborde ensemble aussi, c'est la question de l'impact de cette révolution technologique avec toutes ses limites et toutes ses guillemets, mais sur des aspects politiques, sur des aspects de gouvernance par exemple. exemple. Est-ce que vous pensez que la digitalisation de tout un tas de services, notamment, pourrait améliorer, améliorer la transparence, améliorer le fonctionnement des administrations, peut-être diminuer la corruption, rendre l'économie plus formelle aussi, puisqu'elle va être désormais davantage tracée, hein. Vous parlez de tous les paiements par mobile, ce sont aussi des paiements tracés qui peuvent peut-être diminuer le fléau de la corruption. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça, c'est un vrai sujet. Je pense que ça va prendre des années, mais ça commence. Hein. Effectivement, l'intérêt aussi de tout ce qui est numérique, c'est que ça permet de passer une partie de l'économie informelle en formelle. Dans les intérêts, c'est que ça permet de lutter contre certaines fraudes. Je pense au même trafic de drogue, trafic de faux médicaments, qui est un vrai fléau en Afrique. Il y a aussi la question fiscale. Alors, c'est jamais politiquement correct, mais bon, malgré tout, aujourd'hui, en Afrique, la pression fiscale est très faible parce qu'il y a beaucoup d'informels et que les États n'arrivent pas à récolter suffisamment d'impôts. Hein. Une des parties des difficultés du secteur public africain, des infrastructures, des éducations et autres, c'est que les États manquent d'argent. C'est un moyen aussi de remettre un peu d'argent dans ces services publics de première nécessité. Hein. Et je pense à l'éducation et à la santé en numéro un. C'est aussi un moyen de lutter contre la corruption. Actuellement, la KfW, qui est la Banque mondiale allemande, la AFD allemande, est en train de mettre en place un système au Burkina Faso de suivi des fonds envoyés par les bailleurs de fonds au Burkina, suivi par la blockchain. En fait, c'est suivi projet par projet par la blockchain. Et un des intérêts, c'est que ça permettra d'éviter certains décaissements, je dirais, qui n'auraient pas lieu d'être, puisque tout sera suivi, tracé, comme vous le disiez. Donc, il y a effectivement un vrai impact. Je pense aussi à tout ce qui est état civil numérique. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu en Afrique sur ça, à savoir qui demain aura l'identité numérique des citoyens africains. Est-ce que ça sera les GAFA dont vous parliez tout à l'heure, les Google, Amazon, et Facebook, Apple, ou est-ce que ce seront les États? Et il y a un vrai chantier en Afrique autour de l'état civil numérique.
Vous voulez dire les données personnelles?
Les données personnelles des citoyens. Donc de dire, ils sont nés à tel endroit, casier judiciaire, droit de vote, etc. Donc il y a des vrais enjeux autour de la dimension politique. Et puis j'ai même envie de dire, ça peut aussi jouer dans l'histoire des pays. Il y a 8 ans, on l'a un peu oublié, mais le printemps arabe a commencé en Tunisie. Et s'il a commencé en Tunisie, c'est aussi parce que Ben Ali trouvait ça très rigolo, les réseaux sociaux. Donc il avait décidé de ne pas le contrôler, donc c'était assez libre. Et quand il y a eu les manifestations en décembre 2010, janvier 2011, les jeunes en Tunisie, ils ont diffusé ça sur Facebook, sur YouTube, photos ou vidéos. Et c'est ce qui, entre autres, a fait que ça a pris. Ça n'aurait peut-être pas pris s'il n'y avait pas eu cette, entre guillemets, liberté autour des réseaux sociaux.
Donc, oui, c'est difficile, effectivement, a posteriori, de savoir à quel point ça a accompagné, à quel point ça a déclenché, la révolution. Mais en tout cas, c'est sûr que, en plus du contexte électoral fort en ce moment, dans certains pays africains, la RDC, le Sénégal, le Nigeria, il y a un rôle aussi important avec les téléphones portables, ne serait-ce que de la circulation de messages électoraux, de campagnes, de mobilisation des militants. C'est aussi un enjeu important.
C'est un enjeu important. Il y a eu des élections récemment au Sénégal, ça a joué. Aujourd'hui, il y a des tensions dans certains pays autour des élections, et je pense même, regardez ce qui se passe actuellement en Algérie. Encore une fois, le fait que les gens puissent prendre des vidéos, les diffuser, des photos, les diffuser, ça change les choses. Il y a encore 10 ans ou 15 ans en Afrique, pour faire un coup d'État, fallait prendre la radio, ici par exemple, et la télé. Aujourd'hui, je pense que ça serait plus suffisant. Parce que, à l'époque, le seul canal d'information de population, c'était la radio et la télé. Aujourd'hui, avec YouTube, avec ce qu'on peut filmer et envoyer, la population peut aussi se renseigner différemment. Ça change la vie.
Eh bien, merci beaucoup Jean-François Huette de nous avoir accompagné tout au long de cette émission ce matin. Je rappelle que vous êtes expert et associé au cabinet de conseil Bearing Point, que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le Digital en Afrique, les 5 sauts du numérique. C'est paru aux éditions Michel Lafon en 2017. Demain, c'est Florian Delorme que vous retrouverez au micro de Culture Monde. Et dans un instant, bien sûr, c'est la grande table.